Il s'agit donc d'une théorie psychologique qui permet d'éclairer la nature de nos relations affectives et amoureuses. C'est la théorie de l'attachement. Donc, et selon cette théorie, il existe un lien direct entre les différents types d'attachement mis en place dès l'enfance et nos rapports affectifs. À l'âge adulte, elle montre que les interactions avec nos parents se sont établies au travers de différents types d'attachement avec des niveaux d'anxiété et d'évitement plus ou moins forts. Le dossier de l'émission s'intéresse donc à l'attachement amoureux à la lumière de cette théorie développée à partir des années 70. Et vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions dès maintenant, franceinter.fr. Et le mot-clé, la TAC. Il se passe vraiment de drôles de choses sur la planète Mars. On apprend cette semaine que de l'eau peut bouillir sur la planète rouge à 0 degré. Et c'est à la une de la science, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Et cette eau qui boue à la surface de Mars façonne les paysages. Une découverte et des expériences étonnantes menées sur Terre. On vous raconte tout dans un instant.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise l'émission. Dossier préparé par Lucie Sarfati avec Dylan Beiner.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Nos relations amoureuses donc à la lumière de la théorie de l'attachement, dossier de la tête au carré cet après-midi avec mes invités, la chercheuse en psychologie Yvan Viard et le psychologue clinicien Marc Pistorio. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue Marc Pistorio. Les toutes premières émotions que nous ressentons là au tout début de notre vie ont des conséquences bien plus tard, donc sur notre vie affective dans le couple par exemple.
Absolument. D'abord elles ont des conséquences sur le développement même physiologique de notre cerveau et puis ces empreintes en fait indélébiles. Ensuite, ont une influence sur des comportements auxquels on ne pense pas, mais pourtant, qui émanent de notre histoire.
Ouais, empreinte indélébile, mais qu'on peut quand même modifier.
Absolument.
Il n'y a pas de fatalité à cette théorie de l'attachement, on va en parler avec vous. Yvan Viard, le câblage aussi de notre cerveau se met en place selon le modèle d'attachement que nous avons reçu dans l'enfance ?
Alors en fait, c'est le modèle d'attachement va s'élaborer chez l'enfant à partir des interactions qu'il va avoir avec ses parents, mais pas uniquement pendant les premières années, en fait tout au cours de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence. Effectivement, je tiens à insister sur l'idée que même si c'est un câblage du cerveau, ça n'est absolument pas définitif.
Déterminé, hein,
exactement.
Évidemment, l'attachement c'est très puissant et c'est le dossier de l'émission dans un instant avec les messages des auditeurs. À la une de la science, des avalanches d'eau bouillante sur Mars. L'eau façonne la surface de Mars, on le sait, mais certainement pas comme sur la Terre. Marion Massé est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue à l'Université de Nantes et vous venez de découvrir, avec des collègues anglais, un phénomène tout à fait original, publié dans la revue Nature Géosciences. Vous avez montré que de l'eau en ébullition à 0 degré pourrait s'écouler sur Mars et laisser des traces bien visibles. Alors de l'eau en ébullition à 0 degré et qui s'écoule, va falloir nous expliquer comment c'est possible parce que on est un peu perdu, Axel. Hein.
Ce matin, oui, on était perdu.
Marion Massé, comment expliquez-vous tout ça?
Alors en fait, les expériences qu'on a faites ne sont pas à 0 degré, hein, elles sont à 20 degrés, donc on a choisi les conditions optimales pour avoir un liquide sur Mars en été. Mais alors comment ça s'explique? Tout simplement parce qu'on peut avoir une température au-dessus de 0 degré, mais par contre la pression atmosphérique est beaucoup plus faible. Donc ça va être le même effet que quand on monte en haut de l'Everest, c'est-à-dire que nous, si on fait chauffer une casserole d'eau, elle va bouillir à 100 degrés. Si on monte au sommet de l'Everest, la pression atmosphérique est plus faible et l'eau va commencer à bouillir à 60 degrés. Et sur Mars, la pression atmosphérique est encore plus faible, ce qui fait que l'eau va commencer à bouillir eh bien, dès qu'elle est liquide, c'est-à-dire à 0 degré.
D'accord. Donc quand on dit que l'eau boue à 100 degrés, il faut savoir dans quelles conditions de pression ça se passe. Hein.
Exactement. Voilà.
Et ça veut dire que l'eau liquide ne reste pas bien longtemps à la surface de Mars alors?
Non, c'est-à-dire qu'elle va, là, dans ce qu'on montre dans nos expériences, c'est qu'elle a quand même le temps de s'écouler, mais pendant qu'elle s'écoule, elle se met à bouillir. Et en fait, ce bouillonnement eh bien, provoque l'éjection du sable. Donc là, on avait du sable dans nos expériences. Ça provoque l'éjection des grains et puis ça déstabilise la pente et ça provoque des avalanches de sable en dessous de l'écoulement.
Oui, racontez-nous un petit peu ces expériences que vous avez menées sur Terre dans deux conditions, une martienne et une terrienne alors.
Oui, c'est ça. Donc on a fait exactement les mêmes expériences en conditions terrestres, donc dans une chambre froide à l'Université Paris-Sud, et en conditions martiennes, donc à basse pression, à l'Open University en Angleterre. Donc l'idée, c'était de se dire, d'accord, on a parlé d'un liquide qui s'écoule sur Mars, mais est-ce que ça s'écoule pareil que sur Terre? On sait que l'eau est très instable sur Mars, elle va tout de suite se vaporiser. Et déjà, est-ce que c'est possible qu'elle coule? Et ensuite, est-ce que le mécanisme d'écoulement ne va pas être complètement différent, ne va pas être très exotique par rapport à celui qu'on a sur Terre? Donc on a fait les expériences dans les deux conditions. Et donc les expériences, en fait, on avait un glaçon de 70 grammes qu'on laissait fondre à 20 degrés. Et si on fait ça sur Terre, eh bien, le glaçon fond doucement, l'eau s'infiltre, et puis on voit, ça ne crée pas de forme en surface. Et quand l'eau s'évapore, eh bien, on ne voit pas du tout de traces de l'écoulement. Alors que sur Mars, eh bien, le fait que cette eau soit instable, au début, on pensait que le fait que l'eau soit instable, eh bien, ça ferait que l'eau ne pouvait pas provoquer de changements à la surface de Mars. Mais en fait, c'est cette instabilité qui va créer de forts changements en surface. Et là, on va avoir des avalanches, des éjections de particules, etc.
Et c'est des traces qui ressemblent à ce qu'on peut voir sur Mars ?
Alors, la corrélation directe entre la surface martienne et nos expériences n'est pas évidente, tout simplement parce que nos écoulements dans la chambre martienne font maximum 30 à 40 cm de long, et la meilleure résolution qu'on a sur Mars est 30 cm par pixel.
Donc il faudrait une grande cuve alors pour réussir.
Alors voilà, il faudrait qu'on puisse avoir une chambre de dépressurisation qui soit de plusieurs dizaines de mètres de long, ce qui n'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut, là, on peut mettre en relation avec les morphomartiennes, c'est-à-dire que les ravines qu'on a observées il y a quelques mois, par exemple, on voit des avalanches qui se font en dessous ces écoulements. Donc ça va bien dans le sens de nos expériences. Mais pour réellement pouvoir comparer, la suite de notre étude, c'est d'utiliser ces données expérimentales et de les intégrer dans des modèles physiques numériques qui vont nous permettre, en fait, un peu de remettre à l'échelle martienne.
Il suffit d'une cuve pressurisée pour simuler complètement les conditions qu'on retrouve à la surface de Mars ?
Alors, on ne simule pas complètement les conditions, on va simuler la pression. Donc, en fait, l'enceinte qu'on a utilisée, c'est tout simplement un ancien caisson de dépressurisation de plongée. Mmh. Donc, ça nous permet de descendre à la pression martienne. Donc, on arrive à avoir la même température, la même pression. Par contre, par exemple, il y a un paramètre qu'on ne peut pas reproduire, c'est la gravité. Bien sûr, on est sur Terre, donc on ne peut pas changer la gravité. Donc ça, on calcule l'effet de la gravité. Et en fait, donc la gravité est plus faible sur Mars. Et en fait, ça va en provoquer un effet encore plus important, tout simplement parce que si un astronome qui va sauter sur la Lune, eh bien, la faible gravité va faire qu'il va sauter beaucoup plus haut que sur Terre. Et bien, sur Mars, ça va avoir exactement le même effet. Donc, nos grains de sable vont sauter encore plus haut sur Mars que sur Terre, dû à cette faible gravité.
Marion Massé, est-ce que vos travaux terrestres vous permettent de mieux comprendre la géologie martienne, alors ?
Alors oui, en fait, il faut faire intervenir un petit peu les deux. C'est-à-dire que quand on regarde la surface d'une autre planète, forcément, notre premier réflexe, c'est de comparer à quelque chose qu'on connaît. Forcément, on va se rapporter à quelque chose qu'on a déjà vu. Donc ça, c'est le premier réflexe. On va regarder, est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent sur Terre, et ça va nous aider à avancer dans l'interprétation. Le problème, c'est qu'après, quand on s'intéresse à la surface d'autres planètes, bien sûr, on fait intervenir des processus beaucoup plus exotiques, des processus très différents. Et donc ensuite, après, il faut adapter cette interprétation qu'on a faite à partir de la surface martienne à ces processus exotiques. Et ça, on peut le faire avec des expériences en laboratoire ou numérique.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour Mars sera le repère et que vos découvertes permettent de repérer de l'eau sur d'autres planètes ?
Alors, sur d'autres planètes, déjà, on n'a pas... Comment dire ? Sur d'autres planètes, déjà, je pense que les expériences vont nous aider à repérer l'eau sur Mars, c'est-à-dire qu'on va...
C'est déjà pas mal, déjà pour commencer.
Voilà. C'est-à-dire qu'un des moyens de repérer l'eau sur Mars, c'est de se dire, est-ce qu'on a des morphologies qui font penser à l'écoulement de l'eau ? Donc pour l'instant, on sera porté aux morphologies terrestres pour faire ça, mais là, on se rend compte que c'est plus trop possible, et puis que ça va former des morphologies différentes. Donc ça va nous aider à avancer dans la reconnaissance des formes liées à l'eau sur Mars. Après, sur d'autres planètes, en fait, on n'a pas vraiment de... dans notre système solaire, en tout cas, de l'eau qui s'écoule en surface, on n'a pas vraiment ça. L'eau liquide, on espère la trouver, par exemple, sur les satellites de glace, mais c'est un océan en profondeur, c'est pas du tout de l'eau qui va s'écouler en surface. Le seul corps sur lequel on a un liquide qui s'écoule probablement en surface, c'est Titan, donc une lune de Saturne, mais sauf que là, c'est pas de l'eau, c'est du méthane liquide, donc c'est encore un autre problème et c'est un processus encore plus exotique pour le coup.
Merci beaucoup Marion Massé, donc vous êtes géologue à l'Université de Nantes et donc grâce à vous, on pourra frimer dans les dîners et dire que l'eau peut bouillir à 0 degré, ce qui va épater absolument tout le monde. Faudra juste pas oublier de parler de la pression dans ce cas-là. Merci beaucoup pour vos explications. Bonne journée à vous et à demain, Axel.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Oui, à la recherche, mais non aux applications cliniques. L'Académie de médecine s'est positionnée sur la question des modifications du génome de l'embryon humain et des cellules germinales. Selon ses conclusions, les techniques telles que CRISPR-Cas9 pourraient permettre des progrès considérables pour la thérapie génique. Elle autorise donc la recherche fondamentale dans ce domaine, à la condition que les embryons modifiés ne donnent pas lieu à un transfert dans l'utérus. Toute intervention clinique de ce type sur la structure de l'ADN reste donc interdite. Les battements du cœur du chien et de son maître se synchronisent quand ils se retrouvent. Des chercheurs de l'université Monash en Australie ont tenté une expérience auprès de plusieurs couples couple chien et maître. À l'aide de moniteurs, les scientifiques ont remarqué une synchronisation de leur rythme cardiaque une minute après leur retrouvaille. Les battements cardiaques du chien et du maître chutaient avant d'entrer en phase. Une nouvelle preuve des bienfaits des animaux de compagnie sur le stress. Mieux encore, l'étude suggère également que les chiens bénéficient des bienfaits de cette relation. Et puis enfin, l'entreprise Sony tente de breveter une lentille de contact intelligente capable, écoutez bien, d'enregistrer et de lire une vidéo en un clin d'œil. Grâce à cette technologie, il sera possible de prendre des photos et des vidéos tout en ajustant le zoom, la mise au point et l'ouverture, simplement en clignant des yeux. La lentille sera ensuite en mesure de faire la différence entre clignement conscient et inconscient grâce à la durée de ces dernières. Bien que connectée à un smartphone, la technologie disposera également d'un stockage interne permettant à son utilisateur de revoir ses vidéos rien qu'en fermant les yeux. Le projet, qui n'en est qu'à l'état d'idée, pourrait voir quand même le jour d'ici quelques années. Allez, la théorie de l'attachement en clignant des yeux, si vous le souhaitez, c'est dans un instant dans le dossier de la tête au carré. Under My Thumb avec les Rolling Stones, bien sûr, à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
La théorie de l'attachement et les relations affectives et amoureuses qui en découlent. C'est donc le dossier cet après-midi de l'émission avec mes invités. Marc Pistorio, vous êtes docteur en psychologie clinique, médiateur. Vous êtes membre de l'Ordre des psychologues du Québec et vous publiez « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es ». C'est aux éditions Flammarion. Yvan Viard, vous êtes chercheuse en psychologie à Paris Descartes et vous êtes thérapeute spécialiste de l'attachement et de l'impact du stress sur la santé. Vous avez publié entre autres « L'attachement, un instinct oublié » chez Albin Michel et puis également un autre ouvrage dont on avait parlé d'ailleurs dans l'émission « Couple heureux » chez Josette Lyon. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque ». Alors je l'expliquais tout à l'heure rapidement dans le sommaire, selon cette théorie de l'attachement, donc il y aurait un lien direct entre les différents styles d'attachement que nous avons développés dans notre enfance et puis plus tard la nature de nos relations amoureuses. Qui est d'abord à l'origine de cette théorie? À quel moment est-ce qu'elle a émergé, Marc Pistorio?
C'est John Bowlby, donc, qui a développé cette théorie. Évidemment, cette théorie, elle est devenue surtout beaucoup plus populaire dans les années 70. Et puis après, en fait, il y a eu tout cet apport des neurosciences qui a relancé vraiment l'attachement au cœur de bien des débats, notamment sur la relation fondamentale entre le parent et son enfant. Mais moi, ce que j'ai trouvé passionnant de la théorie de l'attachement, c'est que c'est avant tout une théorie du manque, puisque Bowlby lui-même était issu d'une famille qui était plutôt aristocratique, famille anglaise traditionnelle, qui considérait au fond que donner de l'affection à son enfant n'était pas forcément lui permettre de devenir un adulte fort et autonome, etc. Et Bowlby en a lui-même souffert de façon très très précise à différents moments de sa vie. Et puis ensuite, il a travaillé dans les milieux hospitaliers et là, il s'est rendu compte en fait à quel point ce manque d'une présence rassurante, sécurisante, particulièrement dans les moments de détresse, puisque l'attachement est très lié aussi à cette notion, était un problème et il a développé en fait à ce moment-là toutes ses études dans ce sens.
Yvan Viard, ça émerge vraiment avec Bowlby dans les années 50-70. Avant, on ignore, on ne dit rien justement sur ces liens d'enfance et leurs répercussions ensuite sur la vie d'adulte.
Alors pas tout à fait, c'est-à-dire que Bowlby est l'homme qui a théorisé les principes de l'attachement. Et à ce sujet, je voudrais dire qu'en fait, actuellement, c'est un petit peu un abus de langage de dire que c'est une théorie, puisqu'en fait, une théorie, normalement, n'a pas été prouvée. Or, actuellement, l'attachement a été prouvé scientifiquement, dans toutes ses composantes. Ça a donné lieu à des milliers de travaux dans le monde entier. Et donc, en fait, il serait plus judicieux de parler non plus de théorie de l'attachement, mais de principe de l'attachement, puisque ça s'est avéré, c'est scientifiquement avéré.
Donc, aujourd'hui, ça inspire encore beaucoup les chercheurs, évidemment.
Énormément.
À fait, oui, bien sûr, puisque c'est une des rares théorie psychologique qui soit prouvée. Mais pour en revenir à votre question de départ, disons qu'il a donc été le théoricien de ses premières expériences cliniques, mais il s'est appuyé aussi sur des principes qui avaient été élaborés par des personnes quand il a commencé à travailler avant la guerre, en particulier dans des écoles pour des enfants avec des difficultés scolaires.
Mmh. Et donc Bowlby, toujours une source d'inspiration.
Ah, toujours, énormément. Ouais. Et en fait, il y a une popularité de cette théorie qui est grandissante et qui donne lieu justement particulièrement à des études qui à la fois en fait maintenant ont largement débordé le cadre de l'enfance évidemment, puisqu'on s'est rendu compte que et ça c'est beaucoup plus récent en fait, de cet impact des relations précoces sur justement nos relations ultérieures, c'est-à-dire qu'on parle de figures d'attachement la mère, le père dans les premières années de vie, aussi en lien avec le développement du cerveau, notamment du cerveau droit, de l'hémisphère droit. Mais on s'est rendu compte aussi que finalement, plus tard, le partenaire amoureux devenait cette principale figure d'attachement, cette source de rassurance que l'on recherche finalement tout au long de la vie.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des études très précises qui ont montré que entre la façon dont on a été élevé, aimé petit, on pouvait reproduire des choses des décennies plus tard, au fond.
Bien sûr, parce que finalement, quand on a développé un style d'attachement qui est plutôt sécurisant, mais on part dans la vie avec ce bagage extrêmement précieux. Donc de moindres doutes, d'une bonne estime de soi. C'est le terreau parfait pour développer un certain bonheur. Et puis quand on est dans les manques et dans les insécurités, bien là aussi on part dans la vie et ça filtre nos rapports à l'autre, évidemment.
Yvan Viard, j'ai l'impression que ce principe de l'attachement, il est de mieux en mieux connu, en tout cas, par le public. Est-ce que vous avez ce sentiment également qu'il émerge plus ces derniers temps et qu'on arrive à comprendre justement nos relations amoureuses à la lumière de ces principes ?
Écoutez, j'en suis absolument ravie si vous me dites qu'effectivement c'est mieux connu. Enfin, disons que jusqu'à assez récemment, on en parlait relativement peu. Parce que le climat français était, au niveau de la psychologie, s'appuyait sur des explications qui ne tenaient pas vraiment compte des principes de l'attachement. Mais je serais absolument ravie qu'effectivement, actuellement, ce soit de mieux en mieux connu.
Et je pense aussi quand même qu'il y a une différence entre l'Europe, ou en tout cas la France, et l'Amérique du Nord, où là, au contraire, c'est beaucoup plus popularisé.
Absolument.
Oui.
Écoutons un reportage sur une évidence expérimentale de l'angoisse de séparation. C'était sur TVA en 2006.
Karine et Klaus Grossmann ont pratiqué les mêmes expériences à travers le monde, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les enfants sont très longtemps portés près du corps.
La mère est sortie de la pièce et du coup l'enfant est totalement perdu. Il a perdu sa base de sécurité. Il ne peut plus jouer. Le monde pour lui est tout à coup devenu sinistre. Il ne peut plus s'orienter. Il n'éprouve plus aucune joie avec ses jouets parce qu'il lui manque la sécurité, la protection. Ce déroulement est toujours identique. Un enfant joue bien quand sa maman est près de lui. Il joue toujours moins bien quand la maman n'est plus là et il joue très mal quand il est tout seul. Et quand la maman revient, il doit d'abord être calmé avant de pouvoir reprendre son exploration. Ce déroulement, nous l'avons constaté dans toutes les cultures à travers les études que nous avons faites, au Japon, aux États-Unis dans les années 60 ou en Allemagne. C'est comme cela partout.
Voilà un exemple là, autour de l'angoisse de séparation là, en l'occurrence. Il y a quelque chose de fondamental et d'universel justement dans l'attachement pour un enfant, Marc Pistorio.
Ah oui, je pense que vraiment on retrouve, d'ailleurs c'est très bien dit, on le retrouve, cet attachement nécessaire hein, dans bien des cultures. C'est un lien, en américain on dit que les enfants sont pre-wired, donc pré-câblés. Il y a vraiment un élan hein, qui est présent dès la naissance pour essayer de créer ce lien fondamental. On le voit avec les bébés, ils développent des comportements spontanés pour, évidemment, se faire nourrir, mais aussi se faire sécuriser. Hein. Ouais. Alors, on a besoin de cette dose de sécurité. Une fois qu'elle est présente, on peut partir à la conquête du monde. Mais si elle n'est pas présente, à ce moment-là, elle crée des enjeux d'anxiété d'abandon ou d'évitement de l'intimité. Et ça, c'est vraiment les insécurités d'attachement hein, dont on parle principalement. Quoi,
Ivan Viard, il y a cette recherche donc, chez l'enfant, donc le tout petit, hein, déjà de cette figure bienveillante et sécurisante.
Alors c'est surtout que c'est un instinct, donc a priori c'est la découverte principale que Bowlby a faite, c'est qu'il s'agissait d'un instinct, donc de quelque chose qui va nous accompagner du berceau à la tombe.
Et c'est son expression d'ailleurs.
Effectivement, c'est son expression, et dont on va essayer de chercher à le satisfaire selon son style d'attachement, donc avec plus ou moins, avec des modalités différentes.
Ouais, donc les parents, ce sont les principales figures de l'attachement, évidemment.
Alors, tout dépend si les parents s'occupent régulièrement de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant va s'attacher aux personnes qui vont s'occuper de manière régulière et stable de lui.
Ouais. Donc ça s'exprime dès les premiers jours de la vie, au fond.
Tout à fait.
Dès les premiers jours de la vie. Cet instinct et cette nécessité.
Absolument. Et en fait, hein, et je pense que c'est intéressant ce que vous dites à la fois. Moi, je fais toujours la distinction entre avoir un papa et avoir un père. On a tous un père et une mère hein, sur le plan biologique. On n'a pas tous un papa et une maman qui ont donc cette valeur affective. Hein. Or, pour développer un attachement sécurisant, puisqu'on va tous développer un attachement, mais pas tous un attachement sécurisant, on a besoin d'être en lien avec des personnes qui vraiment sont des référents sur le plan affectif. De bienveillance, de sécurité.
Ouais. Alors, vous citez un exemple assez étonnant. C'est une vidéo, d'ailleurs, qu'on a été nombreux à voir sur les réseaux sociaux. C'est celle d'une petite fille de 2 ans qui joue sur les genoux de son papa, qui est hirsute, avec une grosse barbe, et qui met une serviette sur le visage. Et qu'est-ce qui se passe, alors, Marc Pistorio ?
Bien justement, hein, la petite fille est absolument effrayée, alors que son papa l'a quitté.
Alors d'abord, elle s'amuse beaucoup avec lui. Hein, elle rit énormément.
Tout va bien. Il a cette serviette sur la tête, mais en fait, il s'est absenté. Il jouait déjà auparavant avec elle. Ouais. Et lorsqu'il revient, bah, elle reconnaît reconnaît la physionomie de son père, mais elle ne voit pas son visage. Et tout à coup, il enlève la serviette et il est barbe rasée. Et en fait, elle ne reconnaît pas cet homme qu'elle pensait être son père. Et la réaction est immédiate. Hein, elle se met à pleurer, elle s'effraie. Ouais. Et là, les parents, en fait, eux, trouvent ça très drôle. Mais justement, c'est d'un point de vue strictement de l'attachement, c'est exactement le type d'expérience qu'on ne veut pas se voir répéter chez l'enfant. Puisque l'enfant a à être sécurisé, il y a aussi une régularité et une répétition dans le bien-être qu'il expérimente avec ses parents.
Ouais. Mais même sur un événement aussi, on pourrait dire, anecdotique que celui-là, vous dites vraiment, il ne faut jamais générer de la peur chez de l'enfant ?
C'est-à-dire que moi, je pense qu'au fond, la peur crée quand même une empreinte, qu'elle soit inconsciente ou... Et c'est à l'opposé, en fait, de ce qu'un parent, à mon sens, devrait vouloir générer chez son enfant. C'est-à-dire qu'au fond, on a beaucoup plus à être dans la disponibilité affective que dans les mois, la peur, le stress à répétition, et surtout pour s'en amuser. Il y a à ce moment-là une construction pour moi qui n'est pas salutaire pour l'enfant.
Yvan Viard, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'événement qui vraiment est très rapide, évidemment, sur le temps?
Disons que c'est pas forcément très rigolo de la part, enfin, je veux dire, du point de vue de l'enfant. L'important, c'est effectivement de savoir si ce sont des comportements répétés de la part des parents. Si c'est uniquement une fois. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi qu'à partir du moment où ils ont eu cette idée relativement saugrenue, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le besoin d'attachement de leur enfant et ce besoin d'être justement d'engendrer le moins souvent possible d'émotions négatives.
Oui, et puis je voudrais rajouter aussi que ce qui est important pour soi, ce qui nous marque, ce qui nous frappe, c'est vraiment aussi l'empreinte somatique d'une émotion. C'est pas uniquement la compréhension qu'on en a. D'ailleurs, on sait très bien qu'au fond, les gens comprennent souvent les émotions, les difficultés qu'ils vivent sur un plan intellectuel. Mm-hmm. Mais c'est l'intégration émotionnelle qu'on va chercher comme psychologue, parce que c'est elle qui est difficile et dont on a du mal à se défaire.
Anaïs nous dit « J'ai toujours été attirée par des hommes plus âgés. On m'a souvent dit que c'était dû à une recherche de paternité. Cette psychologie de comptoir, écrit-elle, qu'on me ressasse à le don de m'agacer profondément. Faut-il absolument trouver une raison à une attirance amoureuse spécifique ?» Si elle est équilibrée.
Si elle est équilibrée.
Apparemment, tout se passe bien donc pour elle.
Bah écoutez, moi j'ai envie de dire, si les gens sont heureux, comme psychologue, j'irai pas les voir. Je vais plutôt m'intéresser à ceux qui vont pas bien et qui viennent me rencontrer. Donc si elle est équilibrée, il n'y a pas de problème. Si on note par contre une répétition, on dirait nous aussi un pattern qui rend les choses difficiles et la personne triste, à ce moment-là, c'est là qu'on doit se questionner.
Yvan Viard.
Et puis a priori, là, je n'ai rien à voir dans l'affaire. Puisque c'est un problème de style d'attachement, donc on peut tout à fait être attaché de manière tout à fait saine avec à quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion et les messages sur le site de la Tête au Carré.
Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché. Et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic.
Voilà, l'attachement de Renaud pour les flics dans le dernier titre de son album à l'instant, dans La Tête au Carré. C'est le dossier de l'émission, l'attachement de l'enfance à l'attachement amoureux, avec mes invités Marc Pistorio, ce livre chez Flammarion, Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es, et puis Yvan Viard, chercheuse en psychologie à Paris Descartes. Alors, les messages des auditeurs, il y a des questions très intéressantes sur les premiers mois de la vie de l'enfant, les toutes premières années, avec Thierry, qui demande quelles sont les conséquences pour nos enfants déconnectés très tôt de leurs parents, pour des raisons de travail est confié aux garderies. Il y a beaucoup de questions sur les crèches. Il y a Viron également qui nous pose la même question. Ah oui. Alors, qui veut répondre? Marc Pistorio pour commencer.
Ouais, tous les deux, je pense qu'on va avoir des choses à dire, absolument, d'après ce que je vois. Mais je pense que l'idée, c'est quand même de retenir qu'au départ, étant donné que l'enfant est en construction, est en développement, il est fondamental qu'il puisse avoir accès à un parent qui lui permette au moins d'avoir un peu le temps de développer cet attachement. Et si, en sachant aussi que si cet attachement est sécurisant, bien l'enfant va d'autant plus mieux s'intégrer dans un milieu social et aura moins de difficultés, ce sera moins souffrant aussi pour les mamans. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même une période...
Moi, donc
je
les tout premiers mois sont capitaux.
Les premiers mois en fait, mais je dirais aussi les premières...
Sont capitales, pardon.
La première année, la deuxième année, si on peut offrir à l'enfant ce temps nécessaire pour créer un lien solide, ensuite ça va être beaucoup plus facile. Si ça n'a pas pu être créé, parce que parfois les gens ont besoin d'envoyer leur enfant tôt en service de garde, à ce moment-là, effectivement, on peut toujours renforcer ce lien d'attachement, mais offrons à nos enfants la possibilité au moins de le développer dès le départ.
Bon, Yvan Viard, vous êtes un peu plus mesuré par rapport à ce que nous dit justement Marc Pistorio.
Bien oui, parce que c'est effectivement, il faut prendre en compte les personnes qui travaillent, les mères qui travaillent et qui ont besoin, enfin une nécessité de mettre leurs enfants en crèche. Et en fait, alors c'est vrai que les travaux qui ont été faits sur les enfants en bas âge, quand on a fait les mesures de leur style d'attachement, on s'est rendu compte qu'ils avaient essentiellement un style d'attachement évitant. Mmh. En particulier aussi lié à l'organisation même des crèches, où vous n'avez pas forcément un référent qui va s'occuper en priorité d'un enfant en particulier, donc il peut y avoir un travail à faire au niveau de l'organisation même de la crèche, mais ce qui est le plus fondamental dans cette histoire, c'est pour ça que je me permets d'insister sur le fait que le style d'attachement d'un individu va se mettre en place tout au long de son développement, c'est-à-dire la petite enfance, mais aussi l'enfance et l'adolescence, et ça veut dire qu'à n'importe quel moment ensuite, on peut rattraper le coup, et ça c'est fondamental. Oui. Donc ne culpabilisons pas les mères ou les pères qui sont obligés de mettre leurs enfants en crèche, parce que là ça devient
dramatique.
Mais
pourquoi est-ce qu'on perdrait justement cet attachement si il a été justement assez bien construit dans les tout premiers mois de la vie de l'enfant? C'est pas forcément le passage à la crèche qui va faire que tout d'un coup l'attachement va devenir insécure.
Mais tout dépend à quel âge le bébé part à la crèche. Vous avez actuellement des enfants qui sont placés en crèche et tout dépend aussi le temps qu'ils passent à la crèche. Mm-hmm. Les recherches qui ont été faites de manière très précise là-dessus montrent qu'au-delà, je crois que c'est, si mes souvenirs sont bons, de deux demi-journées par semaine, l'enfant va développer un attachement insécure, en particulier si au niveau de la crèche, il n'a pas une personne référente qui va s'occuper de lui sur une base stable. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant a besoin de pouvoir avoir la sensation de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est-à-dire que derrière le mot « secure », qui est éventuellement traduit par « sécurité d'attachement », mais c'est un espèce de faux ami, vous avez la notion de solidité, de pouvoir tenir sur quelque chose. Secure en anglais va être utilisé par exemple pour qualifier la manière dont vous allez vous tenir à quelque chose, dont vous allez vous agripper à quelque chose, ou par exemple en ce qui concerne les bases d'un mur qui vont être solides. Et en fait, ça va plus être la solidité du lien, c'est-à-dire un lien sur lequel on va pouvoir compter, qui va être important.
Marc Pistorio.
Mais en fait, je pense qu'il faut quand même ramener les choses aussi à sur un plan développemental. Il y a quand même une chronologie dans le développement, c'est-à-dire que au départ, on arrive quand même avec un cerveau qui n'est pas le même que celui de l'adolescence ou celui de l'âge adulte. Alors à partir du moment où on est en construction, il se crée aussi des pistes neuronales, il se crée aussi des réflexes comportementaux. Il y a un impact sur les émotions. Donc c'est au tout début qu'on peut offrir à l'enfant cette différence fondamentale. D'ailleurs, la théorie de l'attachement, elle montre bien, ou en tout cas l'attachement montre bien tout de même, qu'il y a des différences chez les enfants à partir de leur expérience relationnelle intime. Cette intimité, si on n'en fait pas l'expérience dès le départ, eh bien, à ce moment-là, on vit des conséquences et on vit des dommages, en fait.
Donc là, il vient de dire, on parle de la toute petite enfance, mais évidemment, tout ça va se développer tout au long de la vie du jeune homme ou de la jeune fille, à l'adolescence également, avec les répercussions ensuite sur la vie d'adulte. Donc ça se déroule de la même manière dans ces premières années de la vie, en tout cas.
Eh bien, disons qu'on peut mieux comprendre le phénomène et le grand principe de l'attachement si on le qualifie comme étant le besoin d'être écouté, entendu, compris et soutenu.
Oui.
Et ces quatre termes, en fait, vont s'appliquer et vont correspondre à des besoins précis, différents, selon l'âge que l'on a. Et bien évidemment, un bébé va avoir besoin d'être entendu quand il a faim, va avoir besoin d'être entendu quand il est émotionnellement troublé. Un enfant ou un adolescent aura le même besoin, mais pas dans les mêmes circonstances.
Mmh, ouais. Mais comment ça se passe dans les familles nombreuses, tiens, par exemple, avec des parents qui ne sont pas disponibles de la même manière que lorsqu'ils ont un ou deux enfants seulement?
Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le besoin d'attachement, il y a une image que j'aime bien, qui est celui celle de l'enfant qui pourrait avoir comme un petit panier et qui va rechercher auprès des différentes personnes de son entourage à faire en sorte que son besoin d'attachement à lui soit rempli. Donc en fait, il va chercher, et en fait on s'aperçoit que finalement dans les familles où il y a pas mal de personnes, il va pouvoir justement aller chercher auprès de différentes personnes le remplissage de la satisfaction de ce besoin d'attachement.
Et pourquoi ça marche pas comme ça dans les crèches alors ?
Non, parce que dans les crèches, jusqu'à récemment, me semble-t-il, il y avait une espèce d'idée selon laquelle il fallait justement pas que l'enfant s'attache, et où on apprenait justement au personnel de crèche à faire en sorte éventuellement de ne pas se substituer au lien maternel. Enfin, je veux dire, bon, toute une espèce de méconnaissance de la manière dont se construit l'enfant, en particulier sur le plan émotionnel.
Mais il y a la disponibilité aussi, parce que ce qu'un enfant en bas âge a un peu expérimenté en ayant une maman disponible, par exemple, ça va être sur des millions d'interactions la présence d'une relation qui va répondre à ses besoins. Si la maman décode bien les besoins de l'enfant, il y a une exclusivité à ce moment-là qui est absolument bénéfique à l'enfant. Dans un milieu où socialement il y a plusieurs personnes, plusieurs enfants, les comportements et en tout cas les interactions sont dilués. Donc à partir du moment où un enfant dispose d'un parent disponible donc à ce moment-là et pas dilué dans les rapports, à ce moment-là il peut constituer aussi un attachement qui est beaucoup plus fort si la maman identifie bien quels sont les besoins affectifs de l'enfant. Donc il y a aussi une qualité associée à la quantité interactionnelle.
Mireille nous envoie ce message. Les principes de l'attachement sont bien connus des parents adoptants parce qu'ils sont sensibilisés sur le sujet et donc très attentifs à la nécessité de créer des liens forts avec leurs enfants.
Oui, tout à fait. Ah oui. C'est effectivement un domaine en France où la théorie de l'attachement a fait une percée remarquable parce qu'effectivement, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi les enfants adoptés ont autant de difficultés relationnelles souvent quand ils arrivent dans leur famille d'adoption, y compris des familles extrêmement aimantes, parce qu'ils ont eu justement à se développer un style d'attachement où ils ont énormément de difficultés à faire confiance.
Il y a une empreinte déjà.
Ouais.
Marc Pistorio, combien de styles d'attachement différents ont été identifiés alors ?
Alors en fait, chez l'enfant, il y a essentiellement quatre styles d'attachement. Le style sécurisant, le style...
Donc ça c'est le meilleur, c'est celui qu'il faut essayer d'avoir absolument, Yvan Biard ?
Mais disons que c'est celui qui rend les choses plus simples. Mais ce qu'il faut dire déjà dès le départ, comme ça évitera aux auditeurs de se poser trop de questions difficiles, c'est que la clé pour avoir un attachement sécurisant, indépendamment de la manière dont on a été éduqué, c'est d'avoir une conscience de la manière dont notre besoin d'attachement a été ou non satisfait. Je veux dire, la clé c'est ça, c'est la prise de conscience en fait. Donc c'est ce qui permet de comprendre aussi que des personnes qui ont été maltraitées, qui n'ont pas eu justement qui n'ont pas vu leur besoin d'attachement du tout satisfait dans leur enfance et leur adolescence, arrivent quand même à l'âge adulte à se récupérer parce que elles ont fait un travail sur elles-mêmes qui leur a permis de prendre conscience des problèmes qu'elles ont pu avoir.
Alors, ouais. Marc Pistorio, donc l'attachement sécure pour l'enfant.
C'est ça.
C'est le premier des quatre.
Oui, c'est le premier des quatre. Et en fait, il y a également un style d'attachement anxieux. Et à ce moment-là, quand on parle d'anxiété sur le plan de l'attachement, on parle d'anxiété d'abandon. Il y a, et ce style d'attachement anxieux, hein, évidemment, ça fait appel à des enfants qui vont avoir tendance à rester beaucoup plus collés à leur mère. On l'a entendu tout à l'heure dans le reportage. Ça va être exactement hein, de même nature dans les relations de couple où une personne qui a un style d'attachement anxieux va vouloir développer des relations plutôt fusionnelles, de dépendance. Et puis, il y a le style d'attachement évitant. Et là, on parle d'évitement de l'intimité. Donc, des personnes, hein, et des enfants et des personnes plus tard, des adultes qui sont dans l'hyper-indépendance, dans l'hyper-autonomie, qui ont du mal à créer une intimité. Des gens d'ailleurs qu'on va décrire souvent comme froids, distants. C'est assez typique. Hein. Et puis le dernier style d'attachement, dont j'ai moins parlé sur le plan amoureux, mais pour les enfants, qui est un style qu'on va qualifier de désorganisé et qui nous amène beaucoup plus à ce moment-là hein, au versant pathologique, en fait, avec des enfants véritablement désorganisés qui viennent souvent de milieux très perturbés, abusifs, soit violence physique, verbale, etc.
Nan nous envoie ce message et une question. Est-ce que ça commence dès les premières heures après l'accouchement? J'ai toujours pensé que ma fille aînée est plus craintive, peut-être à cause de ses deux premières nuits en pouponnière, contrairement à sa sœur que j'ai gardée près de moi dans la chambre à la maternité dès sa naissance.
Enfin, oui et non. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment la répétition des interactions qui va câbler le cerveau. Je veux dire, les neurones, il y a vraiment une base physiologique et neurologique derrière ça. Et il est clair que les neurones ne vont pas se câbler et se décâbler comme ça en deux jours. Non, voilà.
Ouais. Donc cette maman peut se rassurer.
Exactement, c'est vraiment la répétition dans la durée, et j'insiste, petite enfance, enfance et adolescence, donc ça laisse à peu près une marge de entre 15 et 18 ans, voilà, donc ça va. Quoi.
On peut se rattraper,
voilà. Oui, tout à fait.
Et rien n'est déterminé.
Absolument, hein. le style d'attachement a tendance à être stable dans le temps, mais il va être justement modifié par les psychothérapies, les expériences de vie, la prise de conscience justement de sa propre histoire, hein, et donc c'est ce qui est fondamental au fond.
L'attachement est donc plastique comme le cerveau, et on en parle dans un instant avec les relations. Alors là, une fois l'âge adulte, comment ça se répercute sur notre vie amoureuse? Beaucoup d'entre nous vont se reconnaître dans ce que vous allez nous dire, j'en suis sûr. Rituel Spirit, Massive Attack.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
je m'en occupe.
Sur France Inter.
Allez, on parle de l'attachement cet après-midi avec Marc Pistorio et Ivan Viard. Vos messages nombreux qui arrivent sur le site de l'émission. On va parler maintenant des répercussions de l'attachement sur la vie amoureuse. Évidemment, dans une rencontre avec un partenaire, se pose toujours finalement la question relative à l'attachement, Marc Pistorio.
Mais oui, parce qu'en fait, on arrive avec ce prisme-là en fait dans la relation amoureuse, mais on rencontre aussi quelqu'un qui a développé un style d'attachement spécifique. Et les choix amoureux sont aussi des choix inconscients. Hein. On ne choisit pas toujours son partenaire amoureux c'est pour ça. Son physique.
Alors vous, ça vous plaît beaucoup les combinaisons justement.
Oui,
hein. C'est une sorte de Rubik's Cube, voir un peu comment tout ça va pouvoir coïncider ou pas.
Absolument, en fait, l'objet du livre c'était aussi ça. Hein. Dans la première partie, on peut déterminer son propre style d'attachement. Dans la deuxième, en fait, toutes les combinaisons d'attachement dans les couples sont envisagées pour observer en fait quels en sont les enjeux au niveau des pensées, des comportements et des émotions. Et à partir du moment où on a identifié son propre style et celui du conjoint, on peut travailler ensemble à améliorer et sécuriser la relation, en fait.
Ivan Viard, nos choix amoureux, donc c'est le reflet vraiment de cette sécurité ou de cette insécurité première ?
Mais disons que cette histoire de sécurité, c'est une chose dont on n'a pas parlé, c'est le fait que ça détermine la personnalité de manière totalement inconsciente, et en particulier la manière dont on va gérer ses émotions, la perception qu'on va avoir de soi-même, d'autrui et du monde, et c'est donc par rapport à ça qu'effectivement on va, j'ai envie de dire, plus ou moins fuir les personnes, parce que en fait quand on dit que les attachements insécures par exemple se recherchent, c'est pas tout à fait comme ça que je formulerais la chose, c'est qu'étant donné qu'ils ont eu l'habitude d'avoir des relations dans lesquelles il n'y avait pas justement cette écoute et cette bienveillance, ils ne vont pas fuir des relations dans lesquelles ils ne trouvent pas cette écoute et cette bienveillance, puisqu'ils ont l'habitude. Pour eux, c'est pas un scoop. Et à la limite, ils vont même être déstabilisés s'ils se retrouvent avec quelqu'un qui leur offre cette écoute et cette bienveillance, parce qu'ils vont trouver qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez louche. Voilà,
c'est une combinaison très, très commune, au fond, les deux insécures ensemble.
Mais en fait, toutes les combinaisons existent, ça c'est clair, mais deux insécures ensemble, en fait, hein, si on a deux anxieux ensemble, en général, c'est la fusion totale et il n'y a pas de problème tant qu'il n'y en a pas un qui veut devenir plus indépendant. Si on a deux évitants ensemble, c'est deux vies parallèles, il n'y a pas beaucoup de conflits, mais il n'y a pas non plus d'intimité par définition. Et on a un schéma anxieux-évitant, mais là, ce sont des gens qui se courent après en permanence. L'anxieux trouve que l'évitant est trop froid, l'évitant trouve que l'anxieux est étouffant. Donc ça, ce sont des couples avec lesquels qu'on retrouve beaucoup en thérapie.
Virginie nous dit, génération 70, mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime, j'ai grandi dans l'insécurité affective, aujourd'hui ma vie sentimentale est un désastre, dans la mesure où je souffre de dépendance affective vis-à-vis de mon compagnon, je n'arrive pas à m'en détacher alors que je ne suis pas heureuse avec lui, je suis terrifiée à la simple idée qu'il ne m'aime plus.
Mais oui, c'est typique des attachements anxieux.
Alors Ivan Viard, vous qui avez écrit sur les couples heureux, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Virginie pour qu'elle le soit vraiment alors?
Eh bien éventuellement je pourrais lui suggérer de lire mon livre dans lequel j'explique
moi j'aurais d'autres choses à dire.
C'était une boutade, mais cela étant, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer et de développer, donc c'est pour ça que je me permettais cette remarque. Il y a effectivement toute une prise en compte et une conscience à prendre, à la fois de son style d'attachement de manière générale, ce que cette auditrice semble avoir fait, mais surtout de l'impact que ça a au quotidien. Et donc comment, dans les interactions quotidiennes, rapporter les réactions qu'elle a à ce qu'elle a vécu. Et à partir du moment où elle aura cette conscience-là, ça lui devrait lui permettre d'aller mieux.
Et de changer de compagnon ou pas?
Tout dépend. Pas nécessairement. Tout dépend comment réagit son compagnon. Ouais. Tout dépend si son compagnon est un évitant ou pas. Tout dépend si lui-même fait la même démarche. Enfin bon, c'est.
Marc Pistorio.
Moi, ce que je rajouterais, c'est que pour la personne anxieuse, la représentation qu'elle nourrit d'elle-même est plutôt négative et celle des autres positive. Mais je dirais que pour réussir justement à sortir de cette anxiété pour plus de sécurité, il faut partir à la conquête de la dimension manquante, donc de développer une certaine autonomie affective. Et ça, c'est un travail qui peut se faire en thérapie, justement.
Voici une combinaison possible, celle de Stanley Kubrick dans Eyes Wide Shut.
On se calme, Alice, ce pétard te rend trop agressive.
Non ! C'est pas le pétard, c'est toi ! Pourquoi tu ne peux pas me répondre franchement, merde ?
Mais c'est précisément ce que j'avais l'impression de faire. Je sais même pas pourquoi on se dispute.
On ne se dispute pas ! Ce que je veux, c'est essayer de voir où tu te situes exactement.
Je vais te dire ce que je sais. Tu es raide défoncée ce soir, t'as envie qu'on se dispute, et par-dessus le marché, tu essaies de me rendre fou de jalousie.
Mais toi, la jalousie, ce n'est pas ton genre.
Non, effectivement.
Tu n'as jamais été jaloux à cause de moi, n'est-ce pas?
Non, c'est vrai.
Et pourquoi tu n'as jamais été jaloux à cause de moi?
Mais je n'en sais rien, Alice. Peut-être parce que tu es ma femme. Peut-être parce que tu es la mère de mon enfant et que je sais que tu es incapable de me tromper.
Tu es vraiment, vraiment sûre de toi, n'est-ce pas?
Voilà, Tom Cruise, Nicole Kidman, Eyes Wide Shut à l'instant. Un commentaire à Mac Pissorio.
Mais en fait,
quelle combinaison on a là pour vous?
Oh ben pour moi, en fait, si on avait à trancher, évitant anxieux, et donc à ce moment-là, évidemment, hein, la personne anxieuse est dans la dramatisation et elle a le sentiment que si justement l'autre est jaloux, eh ben elle est plus aimée. Hein, ce qui était un décodage complètement inadéquat. Et puis évidemment, l'évitant a du mal à entrer en conflit parce que il va développer toutes les stratégie possible pour éviter d'entrer dans un conflit, donc dans l'explication évidemment d'une intimité avec laquelle il est complètement inconfortable.
Yvan Viard, quels sont les couples qui durent le plus alors dans toutes les combinaisons possibles?
Alors ça dépend si c'est duré sur une basse scène ou pas. Les couples évitants anxieux, les couples évitants anxieux peuvent durer toute une vie en passant leur temps à se disputer. Donc
c'est une façon de faire. Ouais.
Voilà. Et puis effectivement, autrement, ce sont les couples sécures.
Oui. Quand même.
Ou alors les couples qui font ce travail d'introspection, enfin je veux dire individuellement, pour prendre conscience de leur manière de fonctionner et qui là peuvent avoir un très grand avenir devant eux.
Oui, bien sûr, puisque toute l'idée c'est justement celle-là, c'est d'aller vers plus de sécurité d'attachement avec des comportements qu'on a et vraiment qu'on a observé chez les plus sécurisants, et à partir du moment où on développe ces comportements-là, qu'on ait été évitant ou anxieux, on peut se rapprocher de la dimension manquante, et c'est toute l'idée, justement, et l'optimisme de ce qu'on veut faire passer comme message.
Heureusement, tout peut changer, effectivement. Léonie demande, quelqu'un peut-il avoir un comportement amoureux, mais refuser de l'être et de l'admettre?
Oui, c'est l'évitant, typiquement. Tout à l'heure. Évitant, c'est une caractéristique typique des évitants.
C'est le refus de l'intimité.
Francine dit, qu'en est-il des effets négatifs de la surprotection? Est-ce que ça n'est pas nocif également? C'est vrai, on
aimerait
bien savoir où est la frontière.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la surprotection va aussi donner des attachements évitants. Oui. Parce
c'est pas comme ça qu'il faut entendre ces premières années qu'on décrivait tout à l'heure. Hein. C'est pas de la surprotection.
Non, tout à fait.
C'est bénéfique
à l'enfant. Effectivement, c'est toujours la définition que j'utilise, qui est donc le besoin d'être écouté, entendu, compris et soutenu, c'est être écouté par rapport au fait d'être soi-même une personne et de ne pas se faire, entre guillemets, bouffer par son parent.
Mais pour moi, la surprotection, ça sonne plutôt anxieux, justement, et c'est la difficulté de laisser aller son enfant et d'accepter qu'il y ait de la distance. Et cette surprotection-là, elle crée aussi chez l'enfant une anxiété qui va le mener éventuellement à un style d'attachement anxieux.
Ouais. On marche sur un fil, finalement, Yvan Viard. Hein. Tout ça est un travail d'équilibriste.
Oui et non. C'est, je veux dire, je pense qu'une fois qu'on a compris le principe de départ et cette idée qu'il suffit, j'ai envie de dire, assez simplement de faire retour sur son passé et de voir quels sont les liens entre nos réactions actuelles et nos réactions passées, c'est en fait assez simple. Ouais. Alors, ça n'est pas forcément facile à faire parce qu'il y a des mécanismes de défense assez forts. Ouais. Mais disons que déjà, le premier pas qui est de prendre conscience que le besoin d'attachement, ça existe et que c'est fondamental que ça nous câble, ça c'est vraiment un énorme pas.
Et puis d'apprendre aussi à s'auto-réguler sur le plan émotionnel et à se réguler à deux sur le plan
c'est
émotionnel.
Ça, c'est ce que j'allais vous dire.
C'est fondamental.
Voilà, la thérapie à deux, pour le coup, là, elle est très, très indiquée.
Bien sûr, parce qu'en fait, chacun va pouvoir apprendre comment mieux aimer l'autre, c'est-à-dire donc aussi comment mieux le sécuriser au lieu de blâmer, de critiquer. Tout le travail de la thérapie, ça va être de travailler comme une équipe, c'est-à-dire d'aller chercher le meilleur des deux pour faire une équipe forte.
Alors, j'ai un petit bémol par rapport au fait de faire reposer la thérapie du conjoint sur l'autre conjoint, parce que là on est pour le coup sur le fil du rasoir par rapport au fait de tomber dans ce que Bowlby avait appelé le caregiving, le compulsive caregiving, c'est-à-dire en fait le fait de prendre soin d'autrui de manière compulsive, qui est là et tout à fait lié à l'attachement anxieux, qui a justement tendance à prendre en charge la relation. Donc il faut faire relativement
l'anxieux
attention
a tendance à avoir cette attitude-là,
à
vouloir surprotéger l'autre
pour exister et renforcer.
Par rapport à quelqu'un de sécure, ma foi, c'est un petit peu difficile aussi de lui faire porter le chapeau du dysfonctionnement. Donc là, on est vraiment sur le fil du rasoir, il faut faire très attention.
Il y avait un résultat que je trouvais assez fondamental, qui est celui de recherches très récentes, dont une que j'ai menée à l'Université de Sherbrooke, à Québec, où on a montré que la personne sécurisante, en fait, ne perdait pas sa sécurité d'attachement, même si elle est en relation avec une personne qui a un attachement insécurisant. C'est-à-dire que la sécurité d'attachement va avoir tendance à rester stable, et à être inspirante pour la personne insécurisante.
Yvan Viard.
Je suis désolée, mais les recherches que je connais sur la littérature internationale montrent le contraire.
C'est Dans la durée.
Oui, tout à fait. Surtout que c'est une recherche que je viens de mener et qui vraiment est très très récente, 2013.
Mais écoutez, vous battez en brèche les dizaines, voire centaines de recherches qui ont été faites sur le sujet.
Mais oui, ça a été le résultat très intéressant de cette recherche, justement.
Bon, ben ça y est, tous nos messages sont brouillés à cause de vous maintenant. Oui. Dans les dernières secondes,
on arrive
au terme de cette émission et patatras.
Ce qui est quand même important, c'est l'introspection individuelle. Ouais. C'est quand même d'abord un travail individuel.
Allez, on vous lit en attendant. Marc Pistorio, dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. C'est chez Flammarion. Et puis Yvan Viard, couple heureux, comment faire rimer amour avec toujours. C'est chez Josette Lyon.